il est facile de dire tout ça. Et le but d'ailleurs de l'Apocalypse. Hein. C'est un peu les deux yeux de la sainteté de la grâce transformante. La paix. Cette béatitude, ce serment sur la montagne. C'est la révélation. Jésus est venu sur la terre, il a pris chair de la Vierge Marie. Et il a dévoilé, il a révélé. Que la sainteté venait de Dieu. Il a dévoilé comment dans la chair elle se manifestait. C'est vrai, c'est extraordinaire de voir ça. Pas du tout dit, voilà. Heureux ceux qui font des miracles. Heureux ceux qui ressuscitent les morts. Heureux ceux qui guérissent les maladies, heureux ceux qui chassent les démons, heureux ceux qui parlent toutes les langues de la terre par le miracle du Saint-Esprit, heureux ceux qui voient déborder de eux-mêmes toutes sortes de miracles qui sont supérieurs à la puissance de l'homme. Heureux même ceux qui font déborder ces actes et ces opérations visibles aux yeux des hommes qui ne peuvent venir que du Saint-Esprit. Heureux ceux qui convertissent leurs prochains. Heureux ceux qui changent le cœur des mauvais. Il n'a pas dit non plus heureux ceux qui reçoivent les dons de Dieu, l'héritage très précieux et sublime de la foi. Heureux ceux qui reçoivent des grâces. Heureux ceux qui reçoivent des grâces d'illumination. Heureux ceux qui reçoivent des grâces de descendu des mérites de Jésus-Christ crucifié. Pour les éveiller à la mémoire de Dieu. On dit quand les apôtres et les disciples reviennent vers lui et qu'ils avaient fait tout ça, ces centaines de milliers de malades qui étaient guéris, ces aveugles, parce qu'ils prononçaient le nom de Jésus, c'est tous ces démons terrassés. Jésus leur dit, ben, j'ai vu effectivement. Dans votre premier apostolat, j'ai vu Satan tomber foudroyé comme l'éclair. Il a dit, ne vous réjouissez pas à cause de ça. Réjouissez-vous plutôt parce que le monde ne peut pas vous connaître. Réjouissez-vous parce que lorsqu'on vous persécutera, lorsque vous n'aurez rien d'autre que l'humilité pour vous tourner vers la richesse éternelle de Dieu. Alors qu'en fait les saints, c'est vrai, il faut l'avouer, en fait se fait chez eux les manifestations des grâces actuelles, mais pas les manifestations des grâces sanctifiantes. C'est vrai, c'est formidable, Saint-Vincent Ferrier, qui a fait plus de 1000 fois, devant témoins, expertiser la résurrection des morts. C'est vrai, c'est beau, Saint-Patrick, 60 fois, il a ressuscité un mort. Saint-Dominique, 30 fois, il a ressuscité un mort. Et moi, j'ai pas ressuscité une seule fois. Pas une seule fois, j'ai ressuscité un mort. Je ne dois sûrement pas faire partie de la communauté sainte. Parce qu'il faut que je cours encore des milliards de kilomètres dans la grâce avant de toucher la lanière de la chaussure. Non, ce n'est pas parce que... Mais quand on parle de ça, on parle de ces espèces d'exploits glorieux. Et les gens pensent que l'église des saints, l'église de Pierre, l'église des apôtres, l'église apostolique, ils croient avoir entendu dire que on ne peut mettre sur l'autel la sainteté exemplaire d'un saint que parce que il a fait des miracles dans sa vie ou après sa mort. Alors que c'est pas du tout vrai. Et l'Église engage son infaillibilité dans ce que elle dit, c'est l'heure de dire que la vision béatifique a entièrement transformé, en engendré éternel de Dieu, Sainte Jeanne d'Arc. Et donc, elle monte sur l'autel. L'Église le dit lorsque elle a la preuve, à la fois venue d'en haut et à la fois visible, j'allais dire, par le jugement infaillible de l'Église. Vénérez les cœurs purs, ils vont en Dieu. Que Jeanne a pratiqué toutes les vertus héroïques. L'humilité de manière héroïque, la virginité héroïque, la chasteté héroïque, la soif eucharistique héroïque, la tristesse, la miséricorde héroïque, le pardon donné de manière héroïque. Enfin, les béatitudes. Ce qui est invisible, totalement invisible aux yeux des sages, de la sagesse, des sages de notre humanité, de ce monde. Il n'y a que l'Église qui peut percevoir. Et si effectivement, un saint sur la terre manifeste, se voit être le témoignant de la surabondance des vertus héroïques dans tous les domaines des vertus, alors l'Église le donne, fait monter sur l'autel, canonise. Pas du tout parce que Jeanne avait reçu des voix. C'est pas parce qu'elle avait eu des apparitions de Saint-Michel-Archange. C'est pas parce que Saint-Michel-Archange l'a éduqué en direct, téléphone direct avec le ciel. Voilà. Saint-François d'Assise n'est pas canonisé parce qu'il a reçu les stigmates. Et que les stigmates étaient visibles. Et que le sang du Christ se manifester à une société qui était, j'allais dire, engorgée par une gloire, j'allais dire, chevaleresque. Bienheureux les pauvres de cœur, ceux qui vivent toute leur vie comme ça, grâce à l'Eucharistie, hein, grâce au baptême et actualisé sur abondance actuelle, dans le fond de l'âme et le fond du cœur, grâce à la consécration totale à la sainteté de Dieu, lorsqu'on pleure, me rappelle que J'ai raconté ça, mais je veux bien le raconter encore une fois. J'ai été un jour ordonné prêtre, puis j'ai été confessé le dimanche d'après. Et voilà, et donc il y avait des ordinations. Et puis, j'ai pas honte de le dire, parmi les toutes premières confessions que j'ai faites, il y avait un groupe de jeunes qui étaient dans la prairie, là. Des milliers de gens pour cette célébration, c'était une ordination de 12 jeunes prêtres. Bon, bien, il y avait un petit groupe de jeunes à un moment donné qui étaient là, qui faisaient la queue. Et voilà, ils avaient quoi, 16 ans, 17, 18. C'était un groupe d'amis, quoi. Et sans doute parce que c'était certainement parmi les jeunes prêtres, il y en avait un qui connaissait bien. Alors ils sont venus se confesser les uns après les autres. Mais ils n'avaient pas l'apparence des saints, n'est-ce pas, qu'on a sur les icônes. Ils n'avaient pas du tout cette apparence. Il y avait le blouson noir, la tête de mort. Il n'y avait pas les anneaux quand même. Bon. Il n'y avait pas non plus de... Mais quand même, c'était bon. Et chacun est venu se confesser, comme ça. Et je me rappelle que j'étais dans l'admiration en voyant dans la confession qu'ils faisaient leur contrition et leur pureté pratiquement parfaite. Leur vie... intérieur assoiffé, enfin leur soif vraiment, leur soif de Dieu, mais palpable, si je puis dire. Et le tout complètement caché, impossible à voir par les yeux de la terre. Et parmi eux, il y avait une petite. Et cette petite qui était 16 ans, qui était jolie, un peu châtain, bouclée comme ça. Vraiment bien, quoi, vraiment bien. Et elle se met à genoux et elle pleurait. Et elle pleurait. Et elle pleurait, elle était tellement triste. Elle dans sa contrition, dans sa soif de sainteté, dans sa contrition, elle pleurait. Enfin, elle était tellement en contrition, en soif de la miséricorde de Dieu, qu'elle pleurait. Et que du coup elle pouvait pas parler, elle pouvait même pas demander pardon, elle pouvait même pas dire pourquoi elle demandait pardon. Alors ça a été un peu plus long qu'avec les autres parce qu'il a fallu que il fallait l'aider. On me disait quand tu es prête, tu vas confesser, tu verras, faudra aider les gens, faudra aider. Et puis le temps, bien, voilà. Alors je lui ai posé des questions. Elle continuait à pleurer de sa contrition vraiment impressionnante parce qu'elle était toute simple, mais elle était réelle, ça continuait à couler. Hein. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, donc c'était pas à cause de ça, c'était pas à cause de ça, c'était pas à cause de ça. Et puis finalement, j'ai pensé, j'ai eu comme une intuition. Je me suis dit, ah oui, bien sûr, Jésus, il appelle le monde entier à devenir, à se consacrer, quoi. Passer du baptême à la consécration, c'est vrai, pas tout. Les deux seules fois où on fait la litanie des saints, avec tous les saints, c'est au baptême, et à la consécration religieuse, et aussi la consécration sacerdotale, c'est là où on fait la litanie des saints. Les trois fois. Elle me dit, ben voilà, on est appelé à se consacrer à Dieu, passer du baptême, la grâce sanctifiante, à la consécration totale, à Dieu seul. Alors je lui ai dit, mais c'est peut-être parce que vous avez éprouvé une petite résistance à l'appel de Dieu. Je dis ça comme ça. Alors, c'est là. Elle fait toujours non. Elle me dit non. Enfin, elle ne me le dit pas. Elle dit non, c'est pas ça. Elle ne résiste pas à l'appel de Dieu. Alors je dis, écoutez, excusez-moi, mais dites-moi quoi, de quoi il s'agit. Et à ce moment-là, c'est là qu'elle a dit, j'ai laissé passer quelques instants de prière. J'ai laissé passer quelques instants de prière. Quelques secondes de prière, ça voulait dire dans sa bouche. Elle a laissé passer que, voilà, ces petites ces jeunes qu'on voyait. Et elle en pleurait, bienheureux les affligés, ils seront consolés. Elle avait le cœur pur. Et puis après, quand je lui donnais, ah, je me rappelle, je lui dis, ça, c'est pas bien. Et elle disait, oui, mais du coup, vous comprenez, il y a ceux qui sont là et qui, j'ai laissé passer quelques instants de paix. Bienheureux les pacificateurs. Ceux qui surabondent la paix autour d'eux. Surabondent. Ils surabondent tellement la paix que ça éteint tous les traits enflammés de l'irascible dans le prochain. C'est de l'huile dans les rouages immédiatement. Bienheureux, je vais laisser passer quelques instants de paix. L'absolution. Puis la cérémonie donc devait commencer, donc. Puis j'avais quand même 5 minutes devant moi. J'ai été chercher le petit groupe dans la foule des 2 ou 3 000 personnes. J'ai retrouvé le petit groupe avec la petite qui était de cette petite. Et voilà. Et puis j'ai été leur dire, mais où est-ce qu'elle est la petite là, celle qui était avec vous là, puisque vous étiez 6. Ils ont dit non, on ne l'a jamais vue. On n'a jamais été avec quelqu'un comme ça. Et c'est plus tard que j'ai su que c'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est venue me montrer comment on faisait une confession. Miséricorde, je ne savais pas trop faire. Elle m'a montré ce que c'était. La confession, c'est qu'on confesse. On confesse et on en pleure dans une contrition pure, virginale, parfaite. C'est la contrition et l'absence. Et elle, c'est sûr que pendant sa vie, elle n'a jamais laissé passer un instant de soif de Dieu, sauf peut-être une fois. Et c'est pour ça qu'elle est venue se confesser à moi. Et elle a confessé ce péché-là. Et je peux vous dire, quand elle a dit, je laissais passer quelques instants de prière, quelques instants de paix avec Dieu, d'union, différente avec Dieu. Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Elle s'était offerte en victime quand même d'amour à la miséricorde pour tous les hommes. Et elle a laissé passer. Au moment où elle a dit ça, ce n'était pas une simple petite larme l'une après l'autre. C'est les deux yeux qui ont fait jaillir des larmes. Mais avec une, ça m'a tellement... Je m'y attendais si peu, quoi. C'est d'un seul coup, c'était une abondance des deux yeux. Ça coulait. Elle avait laissé passer. Vous voyez, l'ouverture avec la miséricorde. J'ai laissé passer pendant quelques minutes un temps qui était précieux de Dieu et à travers lequel, je pouvais obtenir miséricorde pour les plus grands pécheurs des temps passés, présents ou futurs. Bon, et bien l'ouverture héroïque, c'est la miséricorde, c'est l'humilité, c'est la contrition. Ce sont des choses qui ne se voient pas aux yeux de ce monde, parce que le monde ne peut pas repérer les vertus héroïques de la charité, de la miséricorde et de la sainteté de l'amour de Dieu dans les êtres humains. On ne peut pas, puisqu'il ne connaît pas Dieu. Mais l'Église, elle reconnaît les saints. Elle les reconnaît. Et il y a cette autre chose, c'est que les saints, et c'est ça qui était beau aussi dans la fête d'aujourd'hui, c'est que les saints communiquent à l'Église de la Terre les vertus qu'ils ont acquises par victoire et par conquête héroïque. Et du coup, lorsque nous sommes en communion avec eux, il nous est donné par la puissance de Dieu de pouvoir aller beaucoup plus loin qu'eux dans les vertus héroïques. Parce qu'il n'y a pas de cause diminuante dans la grâce sanctifiante. Et c'est pour ça aussi que l'Église nous fait vénérer cette communion des saints à chaque credo. Je crois à la communion des saints. Parce que dans la communion des saints, ils passent librement à l'intérieur de ceux qui ont la grâce sanctifiante et qui en sont dans une humilité substantielle, si je puis dire, dans une soif substantielle des vertus héroïques, et qui sont les dépôts, instruments obéissants et substantiels de la paix sur la terre et dans les cieux. Et donc, ils circulent au milieu d'eux, ils vont au milieu de nous, ils enveloppent, ils obombrent et ils superviennent à l'intérieur de l'âme de ceux qui sont en communion avec eux. Ils leur apparaissent, ils se manifestent à eux, jusqu'à ce qu'ils comprennent que l'Église est communion des saints et qu'elle est sainte et que tout ce qui n'est pas communion des saints et sainteté dans un membre de l'Église ne fait pas partie de l'Église. Alors du coup l'Église surabonde dans les espaces intérieurs de réceptivité de la sainteté. Parce que ce n'est pas parce que tu es baptisé, que tu as reçu les sacrements, que tu es dans la sainteté. Et si tu n'es pas baptisé, eh bien, tu peux très bien recevoir la grâce de la sainteté par la surabondance du Christ de Marie et de la Jérusalem glorieuse d'en haut, dans la production, j'allais dire, des surabondances des fruits des sacrements. Ils peuvent recevoir ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui ne savent même pas, hein. Certains ne savent pas même, pas conscience que Dieu existe peut-être, ils ne savent pas, on ne leur a jamais trop explicité ça. Et pourtant ils ont une âme tellement pure, ils sont tellement humbles, tellement dépouillés de tout, tellement, ils se considèrent tellement comme les derniers, des derniers, des derniers. Et ils sont tellement assoiffés de sainteté, sans pouvoir émettre, sans pouvoir l'exprimer pourquoi. Ils sont tellement méprisés par l'esprit de ce monde, tellement. Ils font l'objet de pas seulement du mépris, mais d'une envie de les voir disparaître, qu'on ne parle même pas d'eux, et qu'on puisse les voir anéantis dans la mort. Eh bien, il y en a beaucoup de gens qui sont comme ça, c'est par milliards. Hein. Et ceux-là reçoivent à chaque Eucharistie, à chaque oraison, à chaque union transformante dans la communion des saints. À chaque acte de vertu héroïque dans l'humilité, ils reçoivent la surabondance de l'Église et ils reçoivent la grâce sanctifiante sans le savoir. Et c'est pour ça que Jésus a fait cet discours, c'est un enseignement, c'est une révélation. Ce n'est pas à cause de ceux qui sont les instruments de la manifestation messianique de la sainteté de Dieu, qui sont des saints, puisque ceux-là finalement, eh bien, ils ont crucifié leur Messie. Ils ont été les instruments de la production du fruit de la terre, qui est le Messie, la sainteté de Dieu. Mais ils ne sont pas des saints, ils ont refusé, ils ont tué leur Messie. Mais c'est ceux qui reçoivent la surabondance de ces fruits. C'est ceux qui reçoivent en sachant ou sans le savoir. Et si vous voulez les reconnaître, vous regardez. Vous regardez, mais regardez attentivement aujourd'hui. Voici, je vis une foule innombrable. Une foule innombrable qui surabonde dans la puissance de Dieu, du Verbe de Dieu, dans l'amour du Père et du Fils. 12, dans ce passage de l'amour du Père et du Fils, à la puissance du Verbe et dans la fécondité de l'Immaculée Conception, 144 000. Et cela, c'est des multitudes. Des multitudes. Regardez-les. Vois. Vois ici, regarde. Regarde l'humilité. Regarde l'humilité chrétienne dans ceux qui ne savent même pas qu'ils sont des saints. Regarde la soif qui est là. Regarde la persécution dont ils sont l'objet. Ils sont l'objet de la haine de l'esprit de ce monde. Regarde. Regarde leur... Regarde leur pureté. Regarde leur amour de la vie naissante. Ils ont une foi implicite. Parce que dès qu'ils reçoivent une goutte de sang de Jésus par la prière de l'Église, aussitôt, elle a en eux un effet immédiat d'intensification de leur humilité déjà parfaite, d'intensification de leur miséricorde, une capacité à pardonner qui est incroyable. Je me rappelle, moi, que j'avais été en pays de mission pendant 2 ans et ben, il y en avait des chrétiens, pas beaucoup, franchement, pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens dans ce pays. Et mais il y avait des gens, des Africains, donc, il y en avait qui étaient musulmans, il y en avait qui étaient, comment est-ce qu'on appelle ça, des animistes, etc. Ah, bon. Et puis il y avait une petite poignée d'Européens baptisés qui allaient à la messe, qui étaient catholiques, d'autres qui étaient protestants. Mais ça, c'était vraiment une immense, minuscule minorité. Voilà, je me rappelle de Satou. Satou, il n'était pas catholique du tout. Et à cette époque-là, dans ce pays, il y a eu 1 million de morts, je crois, ou 800 000 morts par la faim, affamés. Donc Satou, il est venu nous aider, il est venu aider le père de la mission pour sauver de la mort ces gens-là. Il y en avait plein qui ont dit, moi je vais aider, je suis musulman, je vais aider, je suis... Mais tous ceux qui aidaient, contribuaient, coopéraient à ça, et j'ai pu remarquer, j'ai constaté qu'ils étaient méchants. Ils aidaient les affamés, mais ils les méprisaient. Ils n'hésitaient pas, s'ils étaient un peu énervés, de donner un grand coup de pied dans le ventre. Sans aucune hésitation. Et les chrétiens qui allaient à la messe, qui voyaient la poussière qui se soulevait dans le sable, quand distribuait la nourriture, étaient là au bord de leur piscine et ils voyaient ça de loin. Et moi, ils m'ont dit, quand ils m'ont vu, vous faites partie de ces gens. Ils les méprisaient tellement qu'ils méprisaient ceux qui essayaient. Des chrétiens qui vivaient des sacrements. Heureusement que nous, on n'est pas animistes, heureusement que nous, on n'est pas musulmans, on est à part. Et quand tu vois ça, mais Sadhu, lui, il suffisait simplement, avec Sadhu, j'étais en paix parce que, avec lui, on était en sécurité. On savait qu'il n'allait pas faire, qu'il n'allait pas trahir comme Judas, ni renier. Il avait un visage rempli de lumière. Il avait des yeux d'un saint. Il avait des nuits de prière ardente en présence de Dieu. Il avait même des paroles qui lui étaient données, ainsi que le visage de Jésus, pour lui expliquer comment il fallait rentrer plus avant dans les qualités du cœur, dans le pardon, dans la miséricorde. Il me l'a avoué, mais la veille de mon départ, sinon il n'avait jamais rien dit. C'était un saint vivant. C'était un saint vivant. Il s'assoyait, et à la fin, donc, quand il m'a dit ça, quand nous sommes dit au revoir, et tu sais, nous avons la même foi, moi je dis, je sais, et ça doit que tu as la même foi que moi. Et je dis, comment ça se fait alors? C'est là qu'il m'a dit, eh ben, Sinaïsa, le prophète Jésus, le juge, il vient m'aider toutes les nuits. Parce que je l'appelais. Et du coup, il est venu toutes les nuits. Puis il me dit, tu vois, Sadou, fais comme ça. Je vais t'aider. Je vais te donner ce que j'ai dans mon cœur pour que tu l'aies dans le tien aussi. Et il recevait tous les fruits des sacrements de Jésus. Sans avoir touché un seul sacrement. Voilà. Et c'est là qu'on voit que l'évangile d'aujourd'hui, c'est un enseignement. On ne voit pas Jésus dire autre chose que de toucher, mettre le doigt dans la manifestation de la sainteté à travers les qualités du cœur qui dépassent les puissances de l'homme et qui viennent de Jésus. Mais ça, on ne le sait pas. Quand on a le cœur pur, on voit où est le péché. C'est ne pas aller plus avant dans les vertus héroïques, les pacificateurs. Tu arrives et toute la maison est pacifiée. Eh bien, s'il n'y a pas ça, c'est que tu n'es pas dans la grâce sanctifiante. C'est assez simple, finalement. Si tu ne te recules pas pour laisser passer devant l'autre qui est plus grand que toi, dans l'invisibilité, hein, la surabondance de Dieu. Si tu ne vois pas que l'autre qui est devant toi est plus grand que toi, si tu ne vois pas les enfants, si tu ne vois pas, tu ne les vois pas, tu ne vois pas les enfants avortés, tu ne vois pas. Tu ne vois pas que l'innocence crucifiée des enfants a soifé de la sainteté ressuscitée dans la Jérusalem nouvelle, tu ne vois pas ce qu'il y a. Tu ne vois pas l'opération intime qui est la leur, tu ne vois pas la sainteté très supérieure à... Tu ne les vois pas. Mais c'est que tu n'as pas le cœur pur. Tu n'as pas le cœur pur. Bienheureux les cœurs purs, ils verront de manière claire que celui qui est devant eux et que tu n'as pas regardé est infiniment plus grand que toi dans la soif de l'unique gloire de Dieu dans leur mort. Et alors, quand on voyage, si je puis dire, entre guillemets, par la prière, mais aussi, pourquoi pas, dans la vie courante, et que on peut découvrir, toucher, pénétrer, voir se dévoiler et se révéler à nos yeux intérieurs ces vertus héroïques des béatitudes, et bien écoutez, ça vous donne quand même, ça élargit. Mais ça élargit les tentes de votre maison intérieure, de votre temple au lieu de se fermer, Votre maison a dû se fermer progressivement pour se protéger. Au contraire, dévoile, ouvre toutes ces portes, mille fois, dans toutes les cellules, dans toutes les salles, toutes les portes sont ouvertes. Et Abraham avait une tente à mille portes, tout était ouvert en lui. Quand on voit les vertus héroïques et la sainteté de la grâce surnaturelle, sanctifiante, habituelle, celle qui ne diminue jamais et qui va toujours plus loin par héroïcité. Quand je pardonne de manière héroïque, et bien à ce moment-là, tu as une vie ouverte. La grâce sanctifiante, c'est une fleur qui s'épanouit et qui se laisse dépouiller de son bien en considérant qu'il ne vient pas de toi, mais il est donné à celui qui va, en le dévorant, rentrer dans la même grâce que celle que le Christ a donnée à Marie dans son Immaculée Conception. Il faut savoir, il faut être ouvert de tous les côtés. Pour avoir beaucoup d'amour, c'est vrai. C'est sûr que Sadhu, quand il est mort, était plus âgé que moi. Quand il est mort, ça ne me fait pas l'ombre, mais pas l'ombre d'un doute, qui n'a pas fait de purgatoire. Par contre, ceux qui étaient à la piscine, je ne sais pas, ça ne me fait pas l'ombre d'un doute, qui ne sont pas allés au ciel à leur mort. Ils avaient besoin d'une vie purgative solide, d'une vie illuminative, vraiment, qui n'avait pas commencé, parce qu'ils ne voyaient rien de tout, de Dieu, ni en eux, ni autour d'eux. Alors, par la grâce de Dieu, alors, au jour où doit surgir la sainteté de l'Église à l'état pur, la Jérusalem nouvelle, qui s'entache immaculée, où le point d'orgueil ne pénètre pas, eh bien, il est juste, bienheureux, affamé, assoiffé de justice, et que l'Église visible qui a apostasié les vertus héroïques de la sainteté de la grâce soit détruite. Et qu'il n'y ait plus que une seule soif de Dieu, c'est de voir tous les élus rentrer dans la Jérusalem nouvelle. Par la médiation des vertus sanctissimes, héroïques de la charité, qui se manifestent dans une spiration intérieure des vertus, d'humilité, de pureté. Et de soif engendrante et féconde de la Jérusalem nouvelle qui vient. Dans la Jérusalem nouvelle des saints qui vient, comme dit l'Apocalypse aujourd'hui, voilà, et les oraisons de la messe, les saints attendent dans la Jérusalem glorieuse de la vision béatifique, attendent qu'on puisse s'introduire par la foi dans la Jérusalem nouvelle pour venir s'y introduire dans le cinquième sceau de l'Apocalypse, le sixième sceau de l'Apocalypse. Cette introduction fait que les saints du ciel dans la Jérusalem glorieuse de la vision béatifique vont pouvoir circuler librement au milieu des saints de la terre de la Jérusalem nouvelle. Et quelque part, la fête de la Toussaint, elle est comme chaque année, ce jour où par la messe, par l'espérance et aussi par la charité, on produit une avancée prodigieuse, fulgurante vers cet instant de l'ouverture du cinquième et sixième saut de l'Apocalypse, où la Jérusalem glorieuse des saints de la vision béatifique pourra circuler librement avec l'emportement dès cette terre de la sainteté de la Jérusalem. De la Jérusalem nouvelle. Après tout, est-ce qu'on a une autre espérance que celle-là? Aujourd'hui, hein, si on a besoin de s'épuiser dans un autre espoir, dans une autre espérance, dans une autre perspective pour la production et la réceptivité de la sainteté toute pure. Corps mystique vivant et entier de Jésus, vivant et entier. Dans une seule engendrement éternel de la sainteté, Dieu, la spensalité incréée de Dieu, surmultipliée transsubstantiellement, est présente en acte pur dans la chair des vivants.